Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Nous nous retrouvons pour parler de Spirou aujourd'hui.
Sujet inépuisable. Je ne vous le
cache pas, effectivement. Comme si presque une chronique sur deux, on parlait de Spirou en ce moment. J'exagère un tout petit peu.
J'imagine, enfin, c'est un rêve, l'équivalent pour Tintin. Imaginons que Tintin continue à paraître sous une forme ou sous une autre, et qu'on ait, comme Spirou vu par, Tintin vu par. Ce serait passionnant.
Il aurait fallu que les ayants droit soient d'accord, et ce n'est pas le cas du tout.
Ne respectent pas la volonté de Georges Rémy.
Voilà. Georges Rémy qui ne voulait surtout pas avoir de successeur. Bon, heureusement, ce n'est pas le cas pour Spirou, par conséquent. Et avec les amis de Spirou, c'est un premier tome, eh bien, nous allons pouvoir découvrir une face de moins en moins cachée de tout ce qui s'est produit à l'époque de la naissance de Spirou, en quelque sorte, et un petit peu après, autour de la Seconde Guerre mondiale surtout, avec Jean-David Morvan au scénario, Jean-David Morvan qui s'attelle depuis maintenant quelques années. Alors, il a déjà traité le personnage de Spirou dans la collection classique, mais il est aussi, lui, très touché par toute cette période que je viens de mentionner à travers d'autres récits, dont certains qu'il a partagés avec le dessinateur ici, David Évrard, il y a eu Iréna, il y a eu Simone, et puis d'un autre côté, Jean-David Morvan a aussi scénarisé l'histoire de Madeleine, Madeleine Riffard, une histoire absolument passionnante. Donc c'est ce qui m'amène à dire que voilà, la préoccupation de ce qui s'est produit au cours de la Seconde Guerre mondiale est très forte chez le scénariste. Peut-être Thierry, quelques éléments complémentaires par rapport à ces albums que je viens de mentionner et ce contexte-là.
Oui, parce qu'on parlait de Madeleine ou d'Iréna, qui sont des personnages réels, dans des contextes assez différents, mais la même période. Sur les amis de Spirou, on s'est interrogé. Ça met en scène un personnage tout à fait réel, un personnage passionnant, Jean Doisy, alias le Fureteur, qui était rédacteur en chef de Spirou, le journal, qui était un grand résistant, qu'on connaît peut-être mal de ce côté de la frontière, parce que c'est une histoire qui dira beaucoup aux lecteurs belges, peut-être moins aux lecteurs français immédiatement.
Il faut aller visiter la Belgique, hein, Thierry.
Oui.
Il est temps.
Terre de cocagne.
Voilà.
En tout cas, en matière de bande dessinée.
C'est sûr.
Jean Doisy, c'est la... J'ai failli dire l'âge d'or. Un âge d'or de Spirou, il en a connu tant. Journal qui est né avant-guerre, il y a 10 ans de plus que le journal de Tintin. Spirou qui a eu beaucoup de papas. On ne cesse de célébrer les mérites de Spirou, vu par différents auteurs de l'époque moderne. Spirou qui est réinscrit dans l'histoire contemporaine. Alors non, pas contemporaine, parce que ce serait de notre siècle. L'histoire du XXe siècle, et notamment ses heures les plus sombres. Dans cet album, Les Amis de Spirou, c'est un mélange étonnant, pertinent et à la fois léger, et engagé et fort dans l'évocation de cette période qui nous rappelle une excellente série, Les Enfants de la Résistance, qui met en scène des enfants résistants à hauteur d'enfants. Donc à la fois, ils ne sont pas pris au sérieux, mais en même temps, ils ne sont pas pris au sérieux, donc ils passent au travers des gouttes de la vigilance, ils échappent à la vigilance de l'occupant. Alors, Les Amis de Spirou, c'est tout à fait le reflet d'une réalité. C'est le démarquage du Club Mickey, des Amis de Mickey.
Club de jeunes lecteurs, par
club
conséquent.
Club de jeunes lecteurs, ouais. Avec une morale. Alors, c'est pas un gros mot, hein, la morale. C'est même un mot très noble. Un catalogue d'attitudes à adopter, à la bravoure, la fierté, le dévouement.
Est-ce qu'on pourrait parler de commandements, presque?
Oui, les 10 commandements des Amis de Spirou, on pourrait.
Des commandements laïques, hein.
D'autant plus forts et plus émouvants, remis dans le contexte, parce que ce qu'on va voir à l'œuvre, c'est de jeunes héros dont, pour certains, le destin sera dramatique, parce que cet album se déroule sur 2 chronologies. On est grosso modo en 43, des jeunes lecteurs amis de Spirou constatent toutes les horreurs de la guerre, et ils décident de lutter, de devenir des résistants très engagés. Ils sauvent une jeune fille juive, petite fille juive, et puis ils vont commencer à lutter contre notamment les rexistes, parti fasciste belge. Une autre période temporelle, on est en 44 et Jean Doisy vient s'incliner sur une tombe, la tombe de 2 de ses enfants, lesquels on ne sait pas encore, qui sont morts parce qu'ils ont résisté, qu'ils ont pris des risques. Jean Doisy est désespéré parce qu'il dit « c'est de ma faute, j'aurais pas dû les inciter à faire ça ». Mais les choses sont évidemment plus compliquées, lourdes à porter, mais plus compliquées que la déclaration de Jean Doisy le laisserait penser. Je le disais, ce mélange entre la légèreté de l'enfant, l'engagement naïf, la force de conviction, et puis plein de références qui font chaud au cœur quand on est un vieux lecteur de Spirou. Il y a des personnages qu'on voit revenir dans Les Amis de Spirou, Poil Dur, le boxeur qu'on voit dans les tout premiers Spirou, mais réintroduit dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, de l'occupation en Belgique.
Et puis, eux-mêmes, les enfants, portent tous des noms de héros.
Oui, on a vérifié, c'est tout à fait vrai. Mmh. Tous ces personnages existaient déjà dans le journal de Spirou. Ça laisse rêveur à quel point il y avait déjà un imaginaire et puis un casting, j'allais dire, de personnages qui vont devenir mythiques dans l'histoire du journal de Spirou, déjà à cette époque.
Et puis, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y en a même un qui s'appelle Flupke.
Oui, j'ai pensé aussi à Flupke.
Un petit clin d'œil à Hergé, du coup.
Qui est Flupke, gamin de Bruxelles? Série charmante. Je pense que ça désigne un gamin typiquement bruxellois.
Et il me semble que c'est ça aussi, oui, effectivement.
Ketch de Bruxelles.
Alors, ce qui est, vous le soulignez tout à l'heure, Thierry, très fort à travers cet album, et ceux qui viendront encore ensuite, parce que c'est une série autour de ces commandements, entre guillemets, hein, des amis de Spirou, c'est qu'à la fois, on a l'impression d'assister à un jeu, ce sont des enfants qui presque s'amusent, je mets de grands guillemets, hein, à la résistance, mais le drame est forcément constamment présent dans le récit.
Oui, oserais-je employer le mot de plaisir. Plaisir du jeu, de déjouer l'ennemi, sauf que c'est un jeu. Si on perd à ce jeu-là, on y perd la vie. C'est un jeu aux conséquences funestes. Et c'est d'autant plus émouvant de voir ces très jeunes enfants, on pense à tous ces très jeunes résistants qui se sont engagés, qui sont morts dans des circonstances épouvantables en France ou en Belgique, qui avaient un courage qui laisse rêveur quand on vit aujourd'hui. Qu'on se remémore cette période ou qu'on a encore des témoins dans sa famille de cette période-là, c'était terrible. L'occupation, la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation, c'était horrible. Horrible, et puis on cesse de s'interroger, qu'est-ce que j'aurais fait dans ces moments-là, placé dans ce contexte-là. Les gamins des amis de Spirou, ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas, ils s'engagent avec un peu de folie et beaucoup de courage.
Alors, il ne faut pas être enjoliveur, hein. Je ne sais pas si ce mot existe précisément, mais pas enjoliver l'histoire, parce qu'il y a d'autres gamins aussi. Hein. Il y a des gamins qui sont plutôt du côté des rexistes, comme vous le disiez tout à l'heure, de Léon de Grelle, hein, ce fameux sinistre personnage. Et donc, il y a des bagarres qui se produisent, parfois des bagarres qui vont, vous le mentionniez, jusqu'à la mort. On va mentionner, nous, ici, dans le contexte donc, de cette parution des Amis du Spirou, du tome numéro 1, le catalogue de l'exposition qui a lieu à l'heure actuelle au Mémorial de la Shoah. Exposition qui a lieu jusqu'au 30 août 2023. Et elle s'appelle, cette expo, qui a donné lieu à un ouvrage paru lui aussi chez Dupuis, Spirou dans la tourmente de la Shoah, sous la direction de Didier Pasamonique. Peut-être est-ce que vous pouvez nous situer ce livre encore plus précisément.
C'est un livre magnifique, avec des contributions très éclairantes d'historiens et puis de spécialistes de la bande dessinée. On le disait en préparant cette émission, c'est fou de voir à quel point le personnage de Spirou, le contexte dans lequel, j'allais dire, il vit, il prend vie, peut être le point de départ à une exploration intelligente, raisonnée, très émouvante de l'occupation et puis de l'horrible Shoah. C'est un ouvrage passionnant et j'encourage, et moi-même j'essaierai de me rendre à cette exposition qui doit être extrêmement émouvante et très passionnante aussi pour un amateur de bande dessinée, un amateur de Spirou. Et puis, est-ce que j'avais assez mentionné que Émile Bravo avait réalisé une tétralogie récente avec le groupe Vert de Gris et L'Espoir malgré tout, en inscrivant Spirou dans l'histoire et ses épisodes les plus tragiques de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah? Spirou, c'est un univers, un sujet inépuisable. L'exposition, je pense, est assez incontournable.
Oui, voilà l'occasion de faire mémoire, parce qu'on s'aperçoit avec le temps qui passe, hein, que l'on a tendance à oublier et que les jeunes générations ont besoin de... terrible de dire les choses ainsi, mais de se replonger dans l'histoire pour bien avoir conscience que c'est quelque chose qui peut revenir si on n'y prend pas garde. Il y avait un sondage récemment fait auprès des jeunes aux Pays-Bas, si mes souvenirs sont bons, qui était absolument effarant, où je crois que c'était 45% des moins de 18 ans qui n'avaient quasiment pas entendu parler de la Shoah, qui pensaient que ça n'existait pas, enfin, etc. Donc ça fait un peu frémir.
La bête est morte, mais le ventre qui l'a enfantée est encore chaud.
Donc, si nous avons l'occasion d'aller à Paris, eh bien, il y a la possibilité de voir cette exposition au Mémorial de la Shoah et sinon de se procurer le livre paru chez Dupuis sous la direction, je le rappelle, de Didier Pasamonique, Spirou dans la tourmente de la Shoah. Et puis, nous vous suggérons bien évidemment aussi la lecture des Amis de Spirou. Le premier tome, c'est Un ami de Spirou et franc et droit de Jean-David Morvan au scénario, David Évrard au dessin. Et je ne l'avais pas précisé, Ben Beka à la couleur. Merci Thierry pour tous ces éléments. On se replonge dans nos bandes dessinées et on revient très bientôt à vous.